Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un événement qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 qui s'est jouée au Maroc.
Oui, une finale au scénario complètement fou.
Exactement. Le pays hôte, le Maroc, grand favori, qui perd en finale contre le Sénégal. Et tout ça sur un pénalty décisif qui est raté. On imagine l'immense déception pour toute la nation.
Bien sûr, un vrai drame sportif.
Mais, et si l'histoire était un peu plus complexe qu'un simple score, on a sous les yeux une série de chroniques du magazine iDébat qui propose une lecture complètement à contre-courant.
Une lecture assez provocatrice même.
Oui, l'idée c'est, et si cette défaite était en fait la meilleure chose qui pouvait arriver au Maroc, et peut-être même à tout le football africain? On va décortiquer ça ensemble.
Ce qui est passionnant ici, c'est qu'on part d'un fait purement sportif, une défaite, et on se retrouve à parler de diplomatie, d'image internationale, de maturité.
C'est ça.
Les auteurs ne se contentent pas de commenter le résultat. Ils l'utilisent vraiment comme un révélateur des dynamiques profondes qui traversent le continent. Notre mission, c'est de comprendre cette thèse un peu folle de la victoire dans la défaite.
Alors pour bien comprendre, il faut revenir au moment le plus tendu de la finale, le moment où tout a failli basculer. On est en plein match, l'ambiance est électrique, et là, le sélectionneur sénégalais menace de retirer ses joueurs du terrain.
Un geste qu'un des auteurs qualifie de chantage pur et simple.
Voilà, et là, il faut imaginer le scénario catastrophe. Le Sénégal quitte vraiment le terrain, l'arbitre siffle la fin, le Maroc gagne sur tapis vert.
D'un côté, explosion de joie dans les rues, le Maroc est champion d'Afrique chez lui. Mais à quel prix? C'est Adnan Ben Chakroun qui utilise une formule très forte. Ça aurait été une victoire administrative.
Une victoire administrative.
Qui aurait laissé une tache noire, indélébile, sur le tournoi.
C'est-à-dire que ce trophée n'aurait eu aucune valeur.
Pire que ça, il aurait été contre-productif. Il aurait toujours eu un oui mais. Ça aurait validé tous les clichés sur le football africain. L'instabilité, les décisions suspectes, l'incapacité à gérer un grand événement proprement.
Surtout avec la Coupe du Monde 2030 en ligne de mire.
Exactement. Pour le Maroc, qui se positionne pour 2030, ça aurait été un désastre narratif. L'argument est donc clair. Mieux valait une défaite propre qu'un triomphe suspect. La crédibilité à long terme a été jugée plus importante.
Et ce scénario toxique a donc été évité. La question, c'est comment? Et c'est là que les sources deviennent vraiment fascinantes. L'hypothèse avancée, et l'auteur insiste bien sur le mot intuition,
Oui, ce n'est pas une affirmation.
c'est que la solution n'est pas venue des officiels, mais des joueurs eux-mêmes.
Sur la pelouse?
On entre presque dans le psychologique là. L'auteur décrit une sorte de pacte tacite qui se serait noué sur le terrain, en particulier entre les deux leaders, Achraf Hakimi et Sadio Mané.
Un pacte.
En pleine finale!
L'idée, c'est que face au chaos qui menaçait, ils auraient compris que l'enjeu les dépassait complètement. Il ne s'agissait plus seulement de gagner un match.
C'est un scénario de film, une sorte de négociation silencieuse au milieu du stade.
C'est ça, l'auteur parle d'une lecture à hauteur d'homme. Pas un complot, pas un ordre venu d'en haut, mais un moment de lucidité collective. Les joueurs auraient compris que c'était la réputation de tout un continent qui était en jeu.
Et que le football africain, comme le dit un des articles, n'a plus le luxe du scandale.
Voilà. Surtout à l'ère des droits TV mondiaux, des gros investissements, ce pacte, s'il a bien eu lieu, serait un réflexe de survie d'une génération de joueurs qui sont beaucoup plus conscients de ces enjeux globaux.
C'est une très belle histoire, peut-être un peu trop belle. Est-ce que les auteurs n'oublient pas l'explication la plus simple? La pression monstrueuse d'une finale et ben un pénalty raté comme il y en a des centaines.
Bien sûr, et il ne l'écarte pas, il précise que ça reste une intuition. Mais ce qui les pousse vers cette lecture, disons plus romanesque, c'est le contexte global de l'événement. Et ce contexte, c'était une pression qui venait justement de l'incroyable succès de l'organisation.
Ah oui, l'autre grand paradoxe que soulignent plusieurs articles. Le Maroc est félicité de partout, on parle de la meilleure CAN de l'histoire, des infrastructures parfaites, une sécurité exemplaire. Mais ce succès a eu un effet pervers.
Un effet boomerang, tout à fait. Le chroniqueur Mohamed Yassir Mouline a cette phrase très juste. Le succès engendre la jalousie et la jalousie engendre l'hostilité.
En plaçant la barre aussi haut, le Maroc a créé une situation où
Où la moindre erreur devenait suspecte. Chaque décision de l'arbitre, chaque fait de jeu était immédiatement interprété par certains comme la preuve d'un agenda caché pour faire gagner le Maroc. Le succès n'était plus débattu, il était combattu.
Et ce combat n'était pas que verbal, c'est là que ça devient vraiment inquiétant. L'un des articles rapporte un témoignage qui fait froid dans le dos.
Oui, là on sort du sport. On bascule complètement. Le témoignage vient d'une ville sénégalaise où des supporters marocains regardent la finale dans un café.
D'accord.
Au moment du pénalty décisif pour le Maroc, l'atmosphère devient si hostile qu'ils craignent pour leur sécurité. L'article cite un enregistrement où on entend une voix marocaine prier. Mon Dieu, qu'il rate le pénalty.
C'est glaçant. La personne ne prie pas pour que son équipe perde par fair play, mais pour sa propre sécurité. Pour pouvoir sortir du café, ça n'est sauve.
Exactement. Et là, on comprend que la défaite sportive devient, dans cette situation extrême, le prix à payer pour la désescalade, pour éviter un drame. Ça montre à quel point les tensions dépassaient le cadre du jeu.
Et ça nous ramène à l'organisation. On comprend mieux pourquoi elle était un enjeu stratégique aussi important pour le Maroc.
Oui, tous les textes insistent dessus. Cette CAN n'était pas une fin en soi, c'était une vitrine.
Un des éditoriaux la qualifie de « concentré de savoir-faire marocain au service de l'Afrique ».
On ne parle pas que des stades aux normes FIFA, mais de tout l'écosystème, les routes, les aéroports, la logistique. C'est la démonstration de la transformation d'un pays dont le PIB, rappelle les auteurs, a triplé en 20 ans.
Et cette vitrine avait un objectif très clair.
La Coupe du Monde 2030, co-organisée avec l'Espagne et le Portugal. La CAN était un test grandeur nature. Il fallait prouver au monde que le Maroc était prêt.
Mais il n'y avait pas que 2030.
Non, au-delà, ça s'inscrit dans une vision géopolitique panafricaine. Les articles rappellent que le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest. Ils mentionnent des projets comme le gazoduc Nigeria-Maroc.
Donc le message, en gros, c'était « Regardez ce que le Maroc peut faire, pas seulement pour lui-même, mais pour tout le continent. » Gagner la coupe, c'était bien, mais réussir l'organisation, c'était la vraie priorité.
C'est la thèse centrale. Réussir l'organisation, c'était affirmer une maturité politique et institutionnelle. Une victoire sur tapis vert aurait tout ruiné. Alors qu'une défaite sur le terrain, aussi douloureuse soit-elle, préserve cette démonstration.
Pourtant, malgré cette lecture très stratégique, on sent quand même beaucoup d'amertume dans les textes. Une gueule de bois nationale, comme l'écrit Aziz Bouceta, la déception, elle, est bien réelle.
Elle est immense. Et elle est mêlée à un sentiment de trahison, ou en tout cas de grande naïveté. El Montassir Ben Saïd cite Kafka pour décrire ça. « J'ai eu honte de moi quand j'ai réalisé que la vie était une fête costumée et que j'y étais avec mon vrai visage. »
C'est très fort comme image.
C'est l'idée que le Maroc a joué franc jeu, face à des amis qui avançaient masqués, avec un agenda beaucoup plus agressif. La critique vise en particulier l'attitude de certaines délégations, et notamment celle du Sénégal.
Et cette amertume, elle ne reste pas qu'un sentiment, elle débouche sur des propositions concrètes pour l'avenir.
Oui, et c'est peut-être ça l'héritage le plus intéressant. Face aux débordements verbaux et aux attitudes provocatrices, un auteur, Aziz Daouda, appelle la Confédération africaine de football, la CAF, à mettre en place un code éthique contraignant.
Un code éthique, c'est une bonne idée, mais est-ce que c'est réaliste? Comment on fait respecter ça concrètement?
Ben c'est là que la proposition est intéressante. L'auteur détaille les choses. Il propose 8 piliers. Le respect des valeurs du sport, le comportement sur et en dehors du terrain, la communication.
La responsabilité des entraîneurs aussi, j'imagine.
Oui, des sanctions exemplaires. Et le point clé pour que ça ne reste pas lettre morte, un engagement formel. Chaque membre des délégations, joueurs, staff, officiels, devrait le signer pour recevoir son accréditation au tournoi.
Ah oui, là, ça change tout. Si tu ne signes pas, tu ne participes pas. C'est une manière de forcer la main, en quelque sorte.
Exactement. C'est une tentative de professionnaliser les rapports. Le but, c'est que la passion ne serve plus d'alibi à l'excès. Il s'agit de tirer les leçons pour que le football redevienne un facteur de rassemblement et pas une source de crise entre nations.
Alors, si on essaye de résumer tout ça, on est parti d'une défaite sportive, vécue comme un drame national, et au fil de ces analyses, on arrive à une conclusion vraiment paradoxale.
Que cette défaite a peut-être sauvé l'essentiel ?
Oui, d'un côté, la crédibilité du football africain, de l'autre, la réputation du Maroc comme futur organisateur de la Coupe du Monde. On a vu comment un succès éclatant peut, ironiquement, générer de l'hostilité et mettre le feu aux poudres.
La conclusion qui se dégage, c'est que le Maroc aurait, consciemment ou non, fait un choix stratégique. Le choix de la rigueur et de la cohérence à long terme, plutôt que la victoire à tout prix. C'est une défaite qui, selon cette lecture, structure plus qu'elle n'affaiblit.
Et ça nous laisse avec une question de fond, qui dépasse largement cette finale de Cannes.
Absolument. La question qui reste en suspens, c'est, à une époque où les grands événements sportifs sont devenus des outils de soft power si puissants, des enjeux d'image colossaux, est-il encore vraiment possible de séparer le jeu de la politique? Ou est-ce que les deux sont désormais condamnés à être les deux faces d'une même pièce?